enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'est une lecture tirée du premier livre de Samuel au chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. C'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 30, c'est tout juste avant 2 Samuel 1. Voilà. Chez moi, c'est à la page 232. Voilà. Peut-être que chez vous aussi. Et nous lirons ensemble les premiers versets. Le thème aujourd'hui, c'est Dieu, mon appui. Dieu, mon appui. Lisons ensemble. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé la ville de Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Elle était déjà veuve là. Hein? David fut dans une grande détresse. Car le peuple parlait de le lapider, en français courant, le caillasser. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui avec les 600 hommes qui étaient avec lui. David vivait à ce moment-là des moments extrêmement difficiles. Il avait été oint roi par Samuel, mais le roi en place, Saül, le chassait et le pourchassait. Il le poursuivait jusque dans les déserts les plus reculés. À un moment donné, pour se sauver, il a même fallu que David feigne d'avoir changé de camp pour se ranger du camp des ennemis d'Israël, afin que Saül, le roi d'Israël, arrête de le pourchasser. Pendant ce temps, les siens étaient restés à Tsiklag. Une ville, une bourgade qui avait été donnée à David par ses ennemis. Et David partait en guerre avec ses ennemis contre différents autres ennemis. Mais voilà qu'à un moment donné, eh bien, on apprend que, alors qu'il était parti en guerre, la ville où habitaient sa femme ou ses femmes et les enfants des uns et des autres avait été envahie, avait été détruite et brûlée, et femmes et enfants avaient été emmenés captifs loin. L'ennemi en question était Amalek, un ennemi qui aurait dû éradiquer Saül et qui l'avait épargné. Ça ne causait la chute de Saül plus tard. Mais David et les siens et ses hommes avaient perdu en un seul jour et leurs biens, et même pire que ça, leurs femmes et leurs enfants. Et en rentrant à la maison, votre maison soit un tas de ruines en fumée, et que votre mari ou que votre femme et vos enfants aient été emmenés captifs au loin. Comment auriez-vous réagi? David a vécu là une des heures les plus difficiles de sa vie. Il est dit qu'ils se sont mis à pleurer jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. La fontaine de larmes était asséchée. Et le verset 6 nous dit une phrase qui te concerne en premier chef. Es-tu dans le bonheur le plus parfait? Écoute bien quand même, parce que les temps peuvent changer et un jour ou l'autre, tu peux rencontrer toi aussi des moments difficiles. Voyez-vous, on peut être serviteur de Dieu, on peut être loin de Dieu, choisi de Dieu et pourtant connaître des moments extrêmement difficiles. Le malheur n'est pas que réservé aux incroyants. Le croyant aussi peut être touché par le malheur. Non seulement il avait perdu maison, biens, mais aussi femme et enfants, et en plus la garde rapprochée, les fidèles parmi les fidèles, étaient maintenant contre David. Lui, le leader, lui, celui qui devait mener, avait tout le monde contre lui. Voyez-vous, c'est une chose que de vivre des moments difficiles. C'en est une autre de savoir comment réagir dans ces moments difficiles. Et j'aimerais ce soir vous donner quelques clés pour avoir de bonnes attitudes dans les moments difficiles afin que vous voyiez Dieu agir. Je crois personnellement qu'il y a des croyants qui, parce qu'ils ont adopté certaines attitudes, ne voient pas Dieu réagir dans leur vie. David avait atteint le taquet. Il avait touché le fond. Maintenant, qu'allait-il faire? Eh bien, c'est là-dessus que je voudrais vous attirer. Il a fait trois choses que je vous invite à vous aussi de faire. La première des choses qu'il a faites alors qu'il est arrivé au bout du rouleau, il est dit au verset 6, début du verset 7, alors qu'on parlait de le lapider, de le tuer, qu'il y avait de la haine à couper au couteau, dans l'air, il est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La première des choses qu'il a faites, après avoir pleuré, et ce n'est pas interdit de pleurer en tant que croyant, il a fait une première chose, il s'est encouragé lui-même. Il a repris courage. Comment ça et pourquoi ça? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David, au fil des années de marche avec Dieu, avait appris à le connaître. Je me demande comment d'autres auraient réagi dans son cas à lui. Certains, je suis persuadé, auraient fui le problème en allant boire une bonne bouteille. D'autres, peut-être, auraient pris quelques Lexomil. Ça calme les nerfs. D'autres, encore, peut-être, auraient dit... L'église, pourquoi y aller? Voyez bien, depuis que j'y vais, je prends plein de gamelles. Alors dimanche matin, je reste au lit et je boude avec Dieu. Ouais, je sais, ça n'arrive pas qu'aux autres, n'est-ce pas? Mes amis, il y en a des fois qui pensent que quand on est croyant, c'est l'assurance tout risque. Jamais rien ne me touchera. Je vais vous dire, ce genre de raisonnement et de philosophie est tout sauf biblique. La Bible dit d'ailleurs que le malheur atteint souvent le juste, mais aussi que l'Éternel en délivre toujours. C'est la bonne nouvelle, la soirée. Amen. David savait compter sur Dieu. Ce Dieu qu'il avait sauvé hier et avant-hier, de l'ours et du lion, qu'il avait sauvé hier de la... du glaive de Goliath, était capable maintenant aussi de l'aider à se sortir d'une situation inextricable. David savait que Dieu règne. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et il règne et il fait ce qu'il veut. Psaume 93, verset 1 dit, « L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Dieu règne et il sait ce qu'il fait et il est digne de confiance. Et quel que soit le creux de vague que tu passes, j'aimerais te dire que Dieu règne encore. La Bible dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les creux de vague. Et j'ose le dire ce soir, simplement parce que je l'ai vécu aussi. Même les creux de vagues ont servi. Oui, des fois, on passe la galère. On est peut-être abattu, mais jamais désespéré. On souffre peut-être gros, mais jamais on est écrasé. Parce que Dieu est de notre côté. Amen. David savait reprendre courage. Il s'est encouragé lui-même. Parce qu'il savait aussi qu'on pouvait tout lui prendre. Sauf la présence de Dieu elle-même. Psaume 27, verset 1, il dit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la force de ma vie, mais de qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Et même si une armée se levait contre moi, je n'ai aucune crainte, je m'endormirai tranquillement. Amen. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celle-ci n'est pas encore arrivée, donc il est avec nous, avec toi. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il tient les tenants et les aboutissants de l'histoire en général et de mon histoire en particulier aussi entre ses mains. Amen. Et troisièmement, enfin, il savait qu'en lui, nous avons tout. Nous avons tout pleinement en lui. David était sûr qu'avec Dieu, tout était possible. Et qu'il était possible de se relever. Le psaume 3, verset 1, est devenu pour moi un psaume leitmotiv dans ma vie. David vit une situation de nouveau absolument terrible. Son fils aîné, Absalom, va se lever contre lui, emporter les gens de guerre contre lui. Même le meilleur conseiller de David, Achitophel, qui, lorsqu'il ouvrait la bouche, on pensait que c'était Dieu lui-même qui parlait, va être contre lui. Et pendant sa fuite, un homme sort du buisson et le maudit ouvertement. Et David est sous pression. Et voilà ce qu'il va dire. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Combien disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours. Je traduis en français moderne ce genre de phrases insidieuses qui viennent dans la bouche de gens qui nous connaissent un petit peu, qui sont plus ou moins d'accord avec nous et qui nous disent, alors que nous souffrons le martyr, dans une maladie ou un moment moins difficile, « Et maintenant, ton Dieu, il est où? Et ta religion, à quoi ça te sert? Tu vois bien? Laisse donc tomber. Viens avec nous, faisons la fête. » Mais David va s'arrêter, il y a un moment de pause. David regarde les choses en face, les difficultés en face, et il fait une pause. C'est marqué noir sur blanc, P-A-U-S-E, pause. Et après, le ton change. La phrase suivante, il dit, « Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Il n'a pas dit, « Mais toi, Seigneur, tu es ma honte, tu me fais fuir devant mes ennemis. » Mais non. Il a dit, mais toi Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. En français courant, il est marqué, mais toi Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur, tu me rends ma dignité et ma fierté. Amen. Premier point que David a fait, il savait s'appuyer sur Dieu, il savait reprendre du courage, il savait s'encourager lui-même. Et j'aimerais te dire, frères et sœurs, il y a des moments donnés où personne d'autre ne peut t'encourager que toi-même. J'ai vu des gens à qui on a parlé des heures, et encouragé des heures, et des heures, et des heures. Il y avait là-dedans un bouton à tourner. Et le seul qui puisse le faire, ce n'est pas Dieu, ni les copains, ni les frères et sœurs, ni le médecin, ni le pasteur, ni le psychologue. Le seul qui puisse tourner le bouton, c'est toi. David reprit courage. David reprit courage. On dit de Thomas Edison la phrase suivante. Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, l'inventeur de la lampe à incandescence, à l'âge de 67 ans, avait perdu en un seul jour son atelier avec toutes ses inventions qui étaient dedans. Elles sont parties en fumée suite à un incendie. Savez-vous ce qu'il a dit Thomas Edison? Il a dit, Dieu merci, toutes mes erreurs sont parties en fumée. Maintenant, on peut recommencer de plus belle. Waouh, quelle attitude! Dieu merci, toutes mes erreurs sont parties en fumée. Gloire à Dieu! Tous les héros bibliques, vous pouvez les voir les uns après les autres, ont su faire une chose, dans les moments les plus difficiles, plutôt que d'écouter les circonstances ou les complaintes des autres ou les complaintes de leur propre âme, ils ont su reprendre courage. L'apôtre Paul, il est au fond d'une prison romaine, un cachot humide et froid. Il est seul. Il va rédiger une lettre à l'église de Philippe en disant, chapitre 3 et au verset 9, la chose suivante, 13, la chose suivante, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne s'est pas apitoyé sur lui-même.
Il n'a pas dit, oh, quel pauvre apôtre je suis. Qu'est-ce que je fiche là? Mais où est le Seigneur maintenant? Il m'a laissé tomber. Maintenant, c'est lui qui, du fond d'une prison, va encourager l'Église entière à travers les siècles. Amen. David reprit courage. David reprit courage. Moïse reprit courage. Paul reprit courage. J'aimerais vous dire, un échec n'est pas forcément une impasse, mais une opportunité. Amen. Vous savez, une opportunité, une occasion de se repentir, de changer de direction, de mieux faire qu'avant, de reprendre la course. Ce soir, es-tu au fond du trou? J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Là-dedans, il y a un bouton à tourner. Tourne-le maintenant, s'il te plaît. Tourne-le maintenant. Parce que ça dépend de toi. On aurait beau prier ici des heures, jeûner des jours entiers, il faut que le bouton du courage, que tu tournes toi-même là-dedans, il faut que tu tournes ce bouton-là. Il faut que tu le tournes toi-même. Ne sois pas défaitiste. Un échec, ce n'est pas la fin du monde. Dieu aurait-il changé? Non. Alors pourquoi te lamentes-tu? David, reprends courage. Imite-le. J'ai dit trois points. J'ai bientôt fini. Deuxième point, après avoir repris courage, David a fait une deuxième chose. Nous lisons ensemble au verset 8. Et David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Qui de vous sait? Quand Dieu dit une seule parole, ça change tout dans une vie. Qui sait? Levez-vous la main. Une seule parole de Dieu et tout change. Vous avez raison, Karine. Tout à fait raison. Lorsque le centenier romain est venu voir pour son serviteur le Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, dis seulement un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, il a dit deux mots. Il a dit, Lazare, sors. Deux mots. D'ailleurs, heureusement, parce qu'il avait dit seulement sors, tout le monde se serait levé dans les tombes. Hein? Lazare, sors. Un mot, deux mots. Sur la mer de Galilée, parce que la tempête a fait rage, Jésus a été réveillé par le disciple, et Jésus a juste dit ça au vent et à la tempête, « Silence, tais-toi !» Un mot de sa part, et tout change. Et mes amis, lorsque nous sommes au fond du trou, il y a des moments donnés où il nous faut aller consulter l'Éternel. Il nous faut une parole de Dieu pour moi directement. Généralement, quand on est au fond du trou, qu'est-ce qu'on fait? On alerte le SAMU spirituel. C'est tous les pasteurs et tous les anciens de l'église. Pimpon, 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 pimpon. Au secours, je vais mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Et là, une heure, et là, deux heures, et là, trois heures d'entretien. Et on chasse des démons, et on fait des délivrances. Très bien tout ça. Mais moi, on m'a donné, mes amis, ce qu'il vous faut, c'est que Dieu vous parle à vous personnellement. Il faut que Dieu vous parle personnellement. Voyez-vous, au bout de quelques années de ministère, j'en arrive au point suivant, c'est qu'il y a un moment où moi, je n'ai pas la solution à vos problèmes. Je n'ai pas la solution à vos problèmes. Mais je connais celui qui l'a. Et mon travail à moi, c'est de vous amener à oser croire en celui qui est vraiment la solution et qui a la solution à votre problème, c'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. Et il faut que Dieu vous parle. Mais je me suis rendu compte, moi-même aussi, je parle que pour moi, c'est que des fois c'est beaucoup plus simple d'aller solliciter quelqu'un à prier pour moi que moi-même d'aller prier seul dans le secret de ma chambre et d'écouter ce que Dieu a à me dire. Je vais te dire, es-tu au fond du trou? Premier point, reprends courage, encourage ton âme. Ton Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'hier est le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Le Dieu qui t'a sauvé hier des problèmes te sauvera aujourd'hui encore de tes problèmes. Et ce Dieu n'a pas changé. Et il est là. Et ce Dieu entend tes prières. Il a des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Et il est prêt à te parler à toi directement. Amen. Parfois, on cherche des raccourcis. J'en vois des fois. Ils vont là, puis ils vont là, puis ils vont ici. Mes amis, Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas dur de la feuille. Dieu a les oreilles débouchées. Il a des machins là, des watts pour sortir les bouchons de l'oreille. Il a les oreilles propres et il entend, je vous assure. Mais c'est à vous d'aller à lui. Dieu, David a eu le bon réflexe, il consulta l'Éternel, et j'aimerais vous dire, ayez aussi ce réflexe-là. David aurait pu être envahi de pensées négatives en s'écoutant lui-même, ou en écoutant les circonstances, ou les collègues. Non, il a écouté Dieu. Il a réussi, dans ces moments de souffrance, à s'isoler et à aller chercher Dieu. Et j'aimerais te dire, fais-en de même. Récemment, j'ai eu affaire à une personne qui vivait un moment vraiment difficile, très très difficile. Après avoir parlé des heures avec cette personne, à un moment donné, je me suis dit, je m'arrête de parler parce que j'ai l'impression que ce que je vais dire risque d'être de trop. Je suis rentré chez moi, j'ai prié pour elle, Seigneur, parle à cette personne. Et mes amis, Dieu entend ce genre de prière. Et cette personne a pris sa Bible. Dans un moment de désespoir, elle a pris sa Bible, elle l'a ouverte à une page donnée, et Dieu lui a parlé, mais on aurait pu difficilement aller plus précis que ça. Et Dieu lui a parlé avec une précision inimaginable. Jamais j'aurais pu lui dire ça. Mais Dieu savait, et Dieu parle aujourd'hui encore. Amen. 1. David a repris courage. Il s'est encouragé lui-même. 2. Il a consulté l'Éternel. 3. Et je termine par là. Il est marqué au verset 9. Au verset 8, pardon, je le lis avec pour vous. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et au verset 9, écoutez voir ce qui est marqué là. Et David se mit en marche. Autrement dit, ce qu'il avait entendu de la part de Dieu, il l'a mis en pratique. Amen. Mes amis, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, une fois que vous avez repris courage, une fois que vous avez consulté l'Éternel qui vous a parlé, alors de grâce, faites le pas suivant, faites ce qu'il vous dira de faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Parce que c'est là la clé à votre problème. C'est là la clé à votre problème. Regardez voir ce qui est marqué. Il n'est pas dit reste assis et attends que ça vienne. Il a été encouragé à la combativité et non pas à la passivité. Notre Dieu est le Dieu des solutions. Oui, il y a des fois où Dieu nous demande de nous asseoir et de le voir lui déployer sa puissance devant nous. Comme Israël devant la mer Rouge. C'est vrai. C'est vrai. Et même des fois, il est vrai que certaines réponses de Dieu sont des fois surprenantes. L'apôtre Paul va prier à 3 fois pour qu'il se délivre d'une maladie incurable. Et par 3 fois, il va crier à Dieu. Et à la 3e fois, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Point à la ligne. Ça voulait dire, en clair, « Je ne te guéris pas. » C'est ça que ça voulait dire. Des moments où Dieu parle à chacun individuellement de différentes manières. Et dans ce cas précis, Paul n'a pas été guéri. Dieu savait pourquoi et Paul donne une allusion de raison. Il dit, c'est afin que je ne manque pas d'orgueil pour toutes les révélations que j'avais reçues. Paul avait eu des révélations sublimes et pour qu'il ne soit pas orgueilleux, Dieu l'a gardé visiblement sous un problème majeur de santé pour qu'il reste humble. Mais Dieu parle, osons lui faire confiance. À Moïse, entre la mer Rouge et les Égyptiens, Dieu lui dit, lève ton bâton et fends la mer. Et c'est ce qu'il a fait. Et la mer s'est fendue. À Gethsémané, Jésus a demandé, mais Seigneur, c'était possible que la coupe passe devant moi. Et Dieu lui envoie des anges pour qu'ils puissent boire. Il y a la force de boire la coupe et d'aller jusqu'au bout du sacrifice de soi. Mes amis, des fois, Dieu nous demande d'entendre et de faire. Ma grâce te suffit, dira-t-il à Paul. À David, il dira, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Moi, je me demande, que se serait-il passé ce jour-là dans la vie de David si David avait été calé sur des raisonnements négatifs, du style... Ça y est, je suis foutu, Dieu m'a largué, mes femmes, mes gosses, tout est perdu. Ouais, qu'est-ce que je fais ici? Imaginons un instant que David se soit laissé aller à l'apitoiement sur soi, à la pitigu, comme dirait Michel Allard. Il y a des gens qui sont experts en cela. La pitigu, Et ils font ça de manière très très professionnelle, pour qu'un maximum de gens s'en rendent compte, et qu'on les plaigne du début à la fin du culte. Et surtout que ça remonte aux oreilles du pasteur, pour qu'enfin il décroche une visite à la maison. Prenez le téléphone, c'est plus rapide. On priera aussi pour vous au téléphone. Maintenant, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, dans ta détresse, arrête de t'apitoyer sur toi-même. Apprends à reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel. Deuxièmement, va le consulter. Demande-lui maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Une fois que tu as entendu de sa part, ben fais ce qu'il te dit de faire. Et tu verras alors, je te promets, la gloire de Dieu dans sa vie. Je conclue avec le verset 18. Lisez avec moi. Après avoir fait tout cela, après avoir cherché à approcher le camp de l'ennemi, il est marqué après la bataille, verset 18, que Dieu, que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Autrement dit, David avait été complètement délivré. Pourquoi ? 1. Dans sa grande détresse, il savait reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Mes amis, Dieu, le Dieu que nous servons est le Dieu invariable. Il ne change pas d'un iota. Il n'y a en lui pas l'ombre d'une variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est digne de confiance. Tu peux t'appuyer sur lui. Il ne s'écroulera pas. Amen. Deuxièmement, quand tu as fait ça, va lui demander, ouvre tes oreilles intérieures, va dans ta chambre, prie, écoute ce qu'il a à te dire. Dieu parle de multiples manières, par un songe, une vision, par sa parole surtout. Osez la lire et l'ouvrir. Elle est une sacrée lettre pour nos vies. Lettre d'amour, c'est vrai, miroir aussi par endroits. Et ça révèle des taches sur notre visage spirituel. Troisièmement, une fois que tu as entendu sa voix, mets en pratique. Et j'aimerais te dire alors que oui, comme David, tu ramèneras tout et tu remporteras la victoire. Dans mes heures les plus délicates et les plus difficiles que j'ai vécues, lors de moments de détresse profonde, il y a un verset que j'ai appris par cœur. Je vais vous le citer. Et je vous invite à le noter en rouge dans votre Bible. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous êtes prêts avec moi? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prenez vos Bibles, Psaume 46, verset 2. Il y en a qui ont du mal à le chercher ou à le trouver. On va le répéter avec moi. Psaume 46, verset 2. On va le lire ensemble et puis on priera. Mettez-le en rouge et surtout lisez ce qu'il y a en dessous. C'est pourquoi, qui est marqué après. C'est pourquoi. Lisons, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je continue tout seul, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Autrement dit, parce que Dieu est un appui, un secours qui ne manque jamais, le monde entier peut se soulever contre nous. On peut vivre des moments dramatiques dans nos vies. Je suis sans crainte. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.